Alors ce matin, j'aimerais qu'on prenne ensemble le livre de la Genèse et on va lire Genèse chapitre 11. On va lire les versets 1 à 9. Genèse 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons les briques, cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons. » Et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa, sur la face de toute la terre. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci encore pour les Écritures, pour ta parole. Et Seigneur, c'est merveilleux, Seigneur, de ce que tu nous as donné l'histoire du monde. Tu as écrit ces choses afin que nous sachions comment eh bien, les choses se sont passées au commencement. Et nous te remercions parce que ta parole est inspirée, elle est véridique, elle est la vérité. Seigneur, chaque mot, chaque phrase, tout est inspiré par toi pour nous enseigner, nous instruire, nous corriger, nous diriger selon ta volonté, Seigneur. Et nous prions que tu nous nourrisses encore, Seigneur, que tu donnes ta paix, tu donnes ta grâce et tu nous fasses du bien à cause de Jésus, notre Seigneur bien-aimé. Amen. Alors, il s'agit donc du récit de l'histoire de Babel. Tout le monde connaît cette histoire de Babel, hein, même dans le monde. Il y a même un logiciel de traduction qui s'appelle Babel. Dès qu'on cherche quelque chose sur les langues, souvent il y a une photo d'une tour pour rappeler Babel. Et donc, même le monde qui ne croit pas connaît cette histoire, sans même l'avoir lue. Et on croit que c'est un fait historique. On croit que ça s'est passé comme ça, exactement comme ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh, les histoires de la Bible, hein, surtout la Genèse et les premiers chapitres, c'est des allégories, c'est des histoires imaginaires. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Hein. Juste, voilà, on peut en tirer une bonne morale ou des enseignements, des choses spirituelles. Non, ça s'est passé comme ça. C'est la vérité. Ça s'est réellement passé comme ça. Vous savez, ces gens qui mettent en doute les Écritures et le début, surtout la Genèse, qui attaquent la Genèse, une fois qu'ils arrivent à l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, alors là, c'est la vérité. Les 12 tribus d'Israël, bah oui, bah c'est l'histoire là, forcément. Hein. Les Juifs, on les connaît, ils ont leur histoire, c'est écrit en eux. Là, on dit c'est la vérité. Mais vous savez, il n'y a pas de rupture dans la Bible. Il n'y a pas une cassure où là, hop, on change et maintenant c'est historique. En fait, c'est qu'une continuité, un long fil qui ne s'arrête pas. On commence à la création et puis ben, l'histoire des hommes s'enchaîne et se poursuit. Et il y a une chose qui est merveilleuse dans la parole de Dieu, c'est les généalogies. Parce que les généalogies, eh bien, ça permet de retracer l'histoire. On avance de nom en nom, un tel, fils de, un tel, fils de, et on peut reculer dans le temps. Et notamment, eh bien, regardez la suite de notre texte, chapitre 11 et verset 10. Il est dit, voici la postérité de Sem. Donc Sem, c'était un des fils de Noé. Ah tiens, Noé a vraiment existé. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad 2 ans après le déluge. Ah tiens, le déluge est vrai aussi. C'est la vérité. Et regardez, la généalogie se poursuit, hein, on ne va pas toute la lire, hein, mais regardez le verset 27, donc chapitre 11, verset 27. Voici la postérité de Térakh. Térakh engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Ah tiens, Abraham. Alors là, on le connaît, c'est quelqu'un de l'histoire. Hein. C'est l'ancêtre de tous les Juifs et aussi eh bien, des Arabes, puisque c'est le père des Sémites. Abraham. Et il y a d'autres généalogies comme ça dans la Bible. Vous regardez, vous allez trouver une généalogie qui part d'Adam et qui remonte comme ça, même jusque Jésus-Christ. Et donc, le récit de Babel est complètement historique. Et ça commence avec une phrase qui est agréable à l'oreille de l'humanité. Regardez verset 1, chapitre 11, verset 1. « Toute la terre avait une seule langue, les mêmes mots. » Une seule langue, les mêmes mots. Oh, c'est beau. C'est l'unité. Ou plutôt l'uniformité. Voilà. Tout est... Et on se dit, mais c'est chouette, quoi. C'est merveilleux, ça. En tout cas, ça plaît à l'homme. Il y a une centaine d'années, il y a quelqu'un qui a inventé l'espéranto. Hein? Et il s'est dit, oh, ben, on va créer une langue internationale qui n'est pas limitée par des frontières, hein, par un gouvernement, et qui peut se répandre. Bon, l'espéranto, il n'a pas vraiment percé. Hein. Aujourd'hui, c'est l'anglais. C'est clair que c'est l'anglais qui a surpassé, qui s'est répandu et qui est le plus parlé dans le monde, en tout cas en nombre de pays. Hein, parce que si on prend population, l'arabe est parlé évidemment par énormément de monde, et les Chinois également. Hein. Mais l'anglais, il est parlé par des Chinois, il est parlé par des Arabes. Donc l'anglais, il est parlé un petit peu partout. Et ça reste un rêve pour l'homme de ne plus avoir cette barrière de la langue. Toute la terre avait une seule langue, les mêmes mots. Et on voit cela facilement d'un bon œil. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, eh ben, vous découvrez que c'est un problème plutôt qu'une bénédiction. Ce fut un problème plutôt qu'une bénédiction. Pourquoi ? Parce que lorsque l'humanité est unie, elle est unie contre Dieu. Elle s'unit contre lui. C'est incroyable. On va lire versets 2 à 4. Chapitre 11, versets 2 à 4. Comme ils étaient partis de l'Orient... Ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Là encore, vous lisez ce texte, vous dites, oh ben c'est bien quand même. Les hommes ont décidé de faire, ils ont un projet commun, ils vont faire un truc ensemble, voilà, une ville, une tour, c'est merveilleux. Et Dieu nous apprend à pas simplement lire en surface, mais à lire le contexte, à lire toute la Bible. Et si vous lisez le contexte, alors là, vous vous posez la question, mais finalement, est-ce que c'était vraiment bien ? Vous remontez au chapitre 9, c'est-à-dire, là on est juste avant le déluge. Et juste après le déluge, et on lit Genèse 9 et verset 1, il est dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ça c'est l'ordre que Dieu donne donc à Noé et ses fils juste après le déluge. Allez-y, remplissez la terre. Comment dire, répandez-vous sur toute la surface de la terre. Ça, c'est ce que je vous demande. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait exactement le contraire. Ils sont restés ensemble, ils ont décidé de voilà, se serrer les coudes et rester bien ensemble. Et ils trouvent donc cette plaine de Shinéar. Donc, c'est la plaine des deux fleuves. Et donc, on pense que c'est en Irak, là où il y a plusieurs fleuves. Et donc, c'est les vestiges de Babylone, en fait, Babel. Derrière la plaine, il y a l'idée aussi du côté facile. Voilà, une belle plaine, on va pouvoir s'installer. Et leur péché, le voici, il se décline en quatre phrases. Hein. Allons, bâtissons une ville. Allons, bâtissons une tour. faisons-nous un nom et surtout que nous ne soyons pas dispersés. Que nous ne soyons pas dispersés. Et là, c'est clairement exprimé. Vous voyez le péché qui était dans leur cœur. Ils ne voulaient pas obéir au commandement qui avait été donné à Noé et à ses fils. Donc à leur père. Ils ne voulaient pas. Ce qui est incroyable, c'est que là, avec cette histoire de Babel, on est un petit peu après le déluge. Hein, pas beaucoup plus loin. Hein, et ce fut un déluge. Dieu est venu frapper la terre. Pourquoi ? Parce que l'Éternel avait vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà, tout le temps vers le mal. Dieu les juge par le déluge et puis quelques décennies passent et puis on recommence, on désobéit de nouveau. On ne veut pas faire ce que Dieu veut. Alors d'abord, bâtissons une ville. Est-ce que vous savez qui a bâti la première ville dans la Bible ? Regardez pas, hein. Non. Caïn a bâti la première ville dans la Bible. Caïn, fils d'Adam, premier meurtrier de l'humanité. C'est intéressant, hein. Vous savez, la première mention d'une chose dans la Bible a une signification. Il faut le regarder. Et donc Caïn, c'est l'homme qui était en rébellion contre Dieu, qui ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Et l'histoire se poursuit finalement avec ses enfants, hein, les enfants de Caïn. C'est toujours un peuple en rébellion contre Dieu. Qu'est-ce que c'est une ville ? C'est un lieu où on va se rassembler les uns avec les autres. Et si aujourd'hui, bien sûr, on ne voit pas quelque chose de mal, hein, dans le fait de se rassembler dans une ville, là, à ce moment-là, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait qu'ils se répandent et pas qu'ils se rassemblent ensemble. À noter qu'il y a un désir de sécurité aussi derrière le fait, peut-être, de se mettre dans une ville ensemble. C'est certain que c'était sécurisant rester là, tous ensemble, voilà, on se sent plus protégé dans cette plaine de Chinéa. Tandis que partir pour l'inconnu, le monde inconnu, hein, le vaste monde, hein, puisque voilà, c'était la découverte, hein, eh bien ça, c'était pas très sécurisant. Mais vous savez, derrière l'obéissance à ce que Dieu demande, il y a toujours la foi et la confiance. Faire confiance. Et derrière la désobéissance et l'incrédulité, eh bien, c'est le refus de la foi, en fait. Hein. On ne veut pas croire, on désobéit, et voilà, c'est lié à une forme d'incrédulité. Et le désir de sécurité, c'est parfois une bonne chose, mais ça peut s'avérer aussi un péché. Parfois, on veut la sécurité et ça devient un péché parce que ce n'est pas ce que Dieu nous demande là, dans l'instant. C'est lui qui est notre sécurité. Et donc, parfois, eh bien, voilà, il nous dit d'aller et de faire un pas, de faire confiance. Par exemple, c'est toujours plus facile de rester dans ce qu'on appelle sa zone de confort. Voilà, là où il ne se passera rien, tout va bien. Je sais, je suis dans ma zone de confort, je ne fais pas un pas pour en sortir. Là, on ne prend pas de risque, on n'accepte pas de responsabilité. On n'ose rien finalement. Et on ne fait rien. On ne fait rien aussi. Et parfois Dieu nous demande de faire quelque chose. Et ça nous semble vraiment pénible, difficile. Parce que c'est un pas en avant. Parce qu'il y a une prise de risque quelque part. Hein, parce qu'il y a la peur. Hein. Mais Dieu nous demande de ne pas craindre. D'avancer. De faire confiance. Et ne pas le faire, eh bien, ça devient un péché. Puisque c'est désobéir à Dieu. Ensuite, bâtissons une tour. C'est-à-dire, faisons-nous un point de ralliement. Vous savez, quelque chose que tout le monde verra. On pourra le voir de loin. Ça nous gardera unis, ensemble. Il y a des exemples dans l'archéologie que l'on trouve de ziggourats. Vous savez, ces tours qui étaient bâties un peu inclinées au départ. Et puis, on fait des étages. Souvent, eh bien, sur le toit, eh bien, voilà, on offrait un culte à des divinités. Et donc, on trouve des ziggourats dans cette région. Mais ce qui importe aux hommes ici, dans notre texte, c'est que le sommet touche au ciel. Il y a un désir de monter, on veut s'élever, aller plus haut. Et c'est un paradoxe, parce qu'il y a ce désir de monter au ciel, et en même temps, en rébellion contre celui qui est dans le ciel. On rejette celui qui est dans le ciel, mais par contre, on veut monter au ciel. C'est quand même incroyable. Et vous savez, le rebelle, il rejette Dieu et en même temps, il veut prendre d'une certaine manière la place de Dieu. Il le rejette et il veut prendre sa place. Par exemple, Satan, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Eh bien, il a voulu monter, hein, se mettre sur le trône de Dieu. Il s'est rebellé contre lui et il a voulu prendre sa place. Si vous prenez Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi, se sont rebellés. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? Eh bien, voilà. Être comme Dieu, finalement. C'est ce qu'on leur a fait miroiter, hein. Le serpent. Vous serez comme Dieu. Oh là là, je monte, je m'élève, je prends quelque part la place de Dieu. Et ici, à Babel, eh bien c'est ça, c'est l'humanité qui veut s'élever jusqu'au ciel. Et il n'y a rien de changé dans le cœur de l'homme aujourd'hui. On continue toujours, on rejette Dieu, mais pourquoi? Pour se faire son propre Dieu, être son propre Dieu. Et... être dans l'indépendance. J'ai besoin de personne. Aussi, dans ce désir de bâtir une tour, il y a quelque part une volonté de monter au ciel par ses propres forces, par sa sueur, par son travail, par son abnégation. L'homme veut monter jusqu'au ciel. Et derrière cette tour de Babel, c'est ce vieux trait, ce vieux travers humain où l'homme pense, je peux y arriver tout seul, je vais y arriver tout seul, je vais y arriver. Beaucoup se construisent eux-mêmes leur accès au ciel. Ils veulent le mériter finalement, le ciel. Ils veulent le gagner à leur manière, atteindre le ciel, mais sans compter sur Dieu et sans se soumettre à Dieu. Comment ça va se traduire? Ça va se traduire par un désir de faire des bonnes œuvres. Et c'est bien de faire des bonnes œuvres, vous savez. C'est toujours bien de faire du bien. Mais quand, eh bien, finalement, on espère mériter quelque chose parce que, on tue pas, on vole pas, parce qu'on est généreux, parce qu'on a une bonne morale, parce qu'on fait des sacrifices, hein, c'est pas réfléchi, mais finalement, à l'intérieur, on se dit, mais tout se mérite, même le ciel, il se mérite quelque part. Et donc, je dois le mériter. Mais on n'atteint jamais le ciel quand on veut essayer de le gagner par ses propres forces. On ne l'atteint jamais. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous demande pas d'essayer d'y parvenir par nous-mêmes. De la même manière que cette tour, hein, qu'il construisait ne parviendrait jamais jusqu'au ciel. Eh bien, il n'y a personne qui peut monter jusqu'à Dieu par lui-même. Impossible. L'important, c'est plutôt d'accepter le fait que lui est descendu vers nous pour nous offrir le salut. Jésus est descendu du ciel pour nous offrir le ciel. S'il y avait un moyen de monter au ciel par nous-mêmes, eh bien Jésus ne serait pas descendu. Ce n'était pas la peine. Mais il est descendu parce qu'il n'y avait pas de moyen de monter jusqu'au ciel. Alors le Fils de Dieu a dit, « Voici je viens. Voici je viens. » Il est descendu, il est mort sur une croix, et il a dit, j'ai payé pour tes péchés. Crois en moi. Et alors, eh bien, tu seras sauvé et tu auras la porte du ciel qui s'ouvre. Hein? Quand on dit, je peux y arriver, je fais mes efforts, je vais y arriver. On est toujours trop court. On n'y arrivera pas. Il faut accepter que Dieu soit venu pour nous sauver et il nous sauve entièrement, maintenant. Si on le croit, si on se repent. Il y a cette parole qui est simple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois et tu seras sauvé dans l'instant. Si tu viens à moi, tu demandes pardon. Seigneur, sauve-moi. Je ne peux pas gagner le ciel. Je te sauve maintenant. Dieu nous sauve maintenant. C'est toujours Dieu qui descend quand nous l'invoquons. Ensuite, ils disent, faisons-nous un nom. C'est-à-dire, faisons-nous une réputation, une renommée, une gloire. Ces hommes voulaient un peu marquer toutes les générations futures avec cette tour immense, qu'on se souvienne d'eux. Et l'homme n'a pas changé. Quand vous regardez les hommes politiques, par exemple, ils veulent toujours laisser une trace, hein, un bâtiment, une pyramide, voilà, quelque chose qui marque, quoi. Hein, un défilé militaire, des lois, oui, c'est sûr, on veut laisser, c'est sûr. Après, on appelle la loi de son nom, hein, même si elle est catastrophique. Hein. C'est vrai aussi pour le commun des mortels. Pour tous les hommes, finalement. Il y a quelque part un désir d'exaltation de soi-même dans le cœur, le moi. Ben, on veut être reconnu, on veut être aimé. Voilà, il y a quelque chose, hein, le péché. Alors bien sûr, il faut quand même de l'estime de soi, hein, c'est une évidence. Hein. Mais le cœur de l'homme peut aussi devenir insatiable de cette renommée, de cette gloire qu'il désire tant. Et là, ben, voilà, c'est le péché, c'est l'orgueil. Plutôt que de se faire un nom, il faut plutôt chercher à adorer le seul nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, c'est-à-dire Jésus-Christ. Adorer le seul nom. Et on voit que même à cette époque reculée, les hommes avaient le choix. Ils pouvaient vivre pour eux-mêmes, voilà, en s'exaltant eux-mêmes et en recherchant à se faire un nom, une tour, ou bien ils pouvaient rechercher le vrai Dieu. Et l'invoquer. Déjà à l'époque, il pouvait invoquer le vrai Dieu. C'est ce qu'a fait Abraham. Si vous regardez chapitre 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » On voit Abraham ici qui a une relation avec l'Éternel, le vrai Dieu. Et donc il y a le choix, et il y avait le choix. Ils pouvaient choisir de vivre pour eux-mêmes ou choisir d'aimer et de vivre pour Dieu. Et c'est ce qu'ont fait ceux de Babel. Ils ont choisi de vivre pour eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'ils dirent ? Quatrièmement, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et là, vous avez la raison profonde, la désobéissance, un refus de faire ce que Dieu demande. Ils ne veulent pas se répandre sur toute la terre. Si on prend ces quatre points, on peut les lier, les résumer, les lier ensemble. Par exemple, le fait de faire une ville, c'est le moyen qu'ils choisissent pour ne pas être dispersés. Voilà, être ensemble. Ils s'agglutinent. Et puis le fait de faire une tour, bah, c'est le moyen de se faire un nom, hein, quelque chose de visible que l'on verra de loin. Les deux vont ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Versets 5 et 6. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Les hommes veulent s'élever, mais ils vont pas très haut. Hein. C'est toujours l'Éternel qui descend. L'Éternel descendit. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Alors, en lisant ces textes, il y a un verset qui m'est venu, c'est Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21. Ce verset dit, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et l'homme peut penser, « Ah, je vais faire ceci, je vais faire cela, et puis je vais aller là, et puis ça va se passer comme ça. » Mais il faut qu'il intègre qu'au final, il ne décidera pas de tout. C'est Dieu qui décide. C'est lui qui est au-dessus. Si vous remontez un petit peu en arrière, les hommes, au moment où ils ont fait ce qu'ils voulaient, ils faisaient le mal, Dieu les a laissés faire. Et puis finalement, il a envoyé le déluge. Ici, ils sont en train de repartir. Hein, dans, on va faire ce qu'on veut. Et Dieu dit là, stop. Là, stop. On s'arrête là. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté si Dieu n'était pas là. Mais Dieu est là. Et Dieu dit non, là, on va s'arrêter ici. Et c'est toujours le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Même le méchant, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Même le diable, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas. Parce que si Dieu dit non, c'est non. Dieu reste toujours souverain sur les circonstances. Est-ce qu'on le croit ? Est-ce que vous croyez que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut? Vous savez, celui qui doute, parfois il se dit, même Dieu, il ne pourrait pas changer ça. Souvent, c'est un manque de connaissance du Seigneur. Mais on se dit, là, c'est insoluble, impossible. Je vois vraiment pas, c'est impossible. Parce que notre cerveau n'arrive pas à voir une solution. Ce que je vis, c'est trop compliqué, trop compliqué. Mais c'est offenser Dieu. C'est l'offenser que de dire, il ne peut pas faire quelque chose pour moi. C'est vraiment faire de lui quelqu'un qui est tout petit, incapable, alors que Dieu est le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Et finalement, c'est être incrédule sur la personne de Dieu, c'est manquer de foi dans la personne de Dieu, parce que si Dieu est Dieu, alors il fait tout, il fait ce qu'il veut, on le sait, on le sait. Maintenant, est-ce que je le crois ? Qui est Dieu pour moi ? C'est là la question. Qui est Dieu pour moi ? Est-ce qu'il est le Tout-Puissant ? Ou il est limité ? Et il devient presque une créature s'il est limité. Il n'est plus Dieu. Mais s'il est Dieu, il peut tout. C'est comme cet homme qui est venu voir Jésus à cause de son enfant qui était possédé. L'enfant se jetait par terre, se roulait par terre, écumait, se jetait même dans le feu. Alors le père désespéré a dit à Jésus, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. » Et pitié, et compassion de nous. Si tu peux, si tu peux. Voilà. Jésus le regarde et lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et cette réponse-là a dû le secouer, parce qu'il s'écria, il a crié, je crois! Viens au secours de mon incrédulité. Là, il a dû sentir, mais voilà, Jésus va se détourner parce que je ne crois pas finalement. Viens au secours de mon incrédulité. Je manque de foi. C'était un cri de détresse. Et Jésus n'est pas parti. Il a guéri son enfant. Et vous aussi, si vous êtes devant une montagne qui est infranchissable à vos yeux, vous dites, c'est pas possible, vous doutez. Mais criez à Dieu, demandez-lui pardon de douter de lui. Et dites, Seigneur, aide-moi à croire, à te faire confiance. Viens-moi en aide. Vous savez, si vous le faites, Jésus ne partira pas. Il entendra et il agira. Tout est possible à celui qui croit. Alors comment faire devant des hommes qui n'écoutent pas Dieu, qui ne veulent pas obéir, qui restent au même endroit, qui s'agglutinent dans une ville et qui offensent Dieu? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Versets 7 et 8. Il est écrit, « Allons, descendons et là confondons leur langage. » Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. D'abord, il y a ce mot « allons ». C'est les hommes qui ont dit « allons ». Par deux fois, ils ont dit « allons, bâtissons, allons ». Maintenant, Dieu dit « allons ». C'est moi qui dis « allons ». Descendons et là, confondons leur langage. On peut s'interroger sur le fait que Dieu utilise cette première personne du pluriel. Mais quand on prend toute la Bible, vous voyez comme une évidence que Dieu n'est pas une personne unique, mais il est trois personnes qui ne forment qu'un, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Allons, et là, eh bien, agissons. C'est comme si, eh bien, ensemble, il y a cette décision. Et en un instant, les hommes se mettent à parler des langues différentes. Et forcément, eh ben là, ils commencent à se séparer et à se mettre eh bien, ensemble par langue, parce qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Et bien que les langues ne cessent pas de changer, d'évoluer, voilà, on va vers la simplification de beaucoup de langues aussi. Souvent, le grec ancien, c'est compliqué. Voilà. On dira un jour, oh, le français ancien, c'est compliqué, hein. Celui des années 2000. On est en train de tout simplifier. Tout simplifier. Mais les langues ont une origine divine. C'est Dieu qui a donné ces langues. C'est incroyable quand même, hein, d'avoir un langage, de pouvoir communiquer, voilà, partager des idées riches. C'est merveilleux, quoi. Merveilleux. Et vous entendez quelqu'un qui parle une autre langue, vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est compréhensible? Dieu a fait cela. Il a fait ce miracle. Et immédiatement, ils se sont séparés. Et donc, Dieu a divisé l'humanité pour les empêcher de se liguer contre lui. Et puis, pour accomplir sa volonté, remplissez la terre. Séparez-vous. Et le dessein de l'Éternel s'accomplit toujours. Dieu dit, je vais faire ça, il le fait. Il faut relever aussi que ce miracle de la multiplication des langues, ce n'est pas quelque chose que Dieu a fait pour sauver les meubles, hein, parce que l'histoire lui échappait. Ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai qu'on peut se dire que Dieu a rattrapé, hein, l'humanité de justesse qui, de nouveau, eh bien, partait mal. Mais en réalité, Dieu sait toutes choses. Et de la même manière que, bien sûr, Dieu n'a pas programmé, mais Dieu savait qu'Adam et Ève tomberaient. Il savait qu'il y aurait cette chute. Et c'est pour cela qu'il a préparé longtemps à l'avance la rédemption par Jésus-Christ. Eh bien, il savait aussi que les hommes, eh bien, allaient se rassembler. Et il avait prévu aussi cette multiplication des langues. Alors, peut-être on peut se dire, ah, mais c'est plus difficile quand même pour annoncer l'Évangile, hein, parce que, quand on voit Kerry, quand on voit André, obligé d'apprendre, alphabétiser, etc. Mais vous savez, plus la difficulté est grande, et plus le miracle est grand. On se dit, mais c'est notre Dieu est grand. Il arrive à aller parler à chacun, dans la langue de chacun, pour annoncer Jésus-Christ, élever le Fils de Dieu. C'est la gloire de Jésus-Christ. Ensuite, il y a un autre point positif dans ce grand nombre des langues et cette séparation, hein, c'est le fait que quand il y a beaucoup de peuples et de nations, quelque part, ça protège les croyants et l'Église de Jésus-Christ. Ça les protège. Vous savez, quand il n'y a qu'une seule langue et qu'on commence à prendre le croyant ou le chrétien comme un ennemi, eh bien, voilà, ça va très vite après, hein. On peut s'assembler tous ensemble contre lui. Par contre, quand il y a plein de nations, eh bien, il y a certains, voilà, ils passent une frontière, hein, et puis ils vont rejoindre l'Occident, ils vont rejoindre des pays plus paisibles, ils vont pouvoir avoir la Bible, ils vont pouvoir la lire en paix, aller dans une église. S'ils faisaient ça dans leur pays, eh bien, c'est la mort, hein, c'est la mort, hein. Et finalement, eh bien, ça protège, et ça a protégé, d'une certaine manière, l'Église de Jésus-Christ. Un seul gouvernement mondial, c'est un danger pour les croyants. Et vous savez, eh bien, on y va. Ça sera ça dans la tribulation. L'Antéchrist, qu'est-ce qu'il va vouloir établir? Un système mondial, centralisé, fiché, compact. Pour quoi faire au final? Mais pour attaquer et persécuter les croyants. Mais un monde divisé en nations, en peuples et en langues, eh bien, ça protège le plus grand nombre. Ainsi, on peut dire que ce qui a été un jugement pour l'époque, Babel, c'était en fait une bénédiction qui était derrière. Après, si vous avez lu le livre de la Genèse, et particulièrement les chapitres 9, 10, 11, il y a peut-être quelque chose qui vous a troublé. C'est que quand vous lisez le chapitre 10, donc juste avant, vous voyez qu'il est déjà parlé de langue. Regardez chapitre 10, versets 4 et 5. Il est dit, les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim, Donamim, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Et là on se dit, mais attends, je ne comprends pas. Chapitre 11, Dieu donne les langues. Chapitre 10, il est déjà parlé des nations et des langues. Et bien évidemment, ces deux chapitres ne sont pas chronologiques. Hein, ils ne sont pas enchaînés de manière chronologique. Le chapitre 10, c'est une généalogie de Noé. C'est, voilà, Dieu est en train de dire, voilà ce que je fais. Et au chapitre 11, c'est un peu un flashback, un retour en arrière. Je ne vous ai pas dit. Voilà ce qui s'est passé juste après le déluge. Hein, quand je leur ai demandé de se séparer. Oui, l'humanité, elle s'est répandue sur toute la terre, mais ça n'a pas été sans l'intervention de Dieu à Babel. Il a fallu que Dieu fasse quelque chose. Et le seul moyen de le faire, c'était de confondre les langues. Babel signifiant « confondre ». Et c'est la suite du déluge, à la suite du déluge qu'apparurent aussi toutes les barrières naturelles pour séparer les peuples. On sait par exemple que la Terre était à l'origine un seul continent. Vous pouvez recoller la Terre. Et les scientifiques nous parlent de la tectonique des plaques. Vous avez entendu ce terme, donc la séparation des plaques. Mais Dieu l'a permise à ce moment-là. C'était en même temps que la division des langues. Regardez Genèse chapitre 10 et verset 25. Genèse 10 et verset 25. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Joktan. De son temps, la terre fut partagée. Dieu a divisé la terre à ce moment-là. Et vous savez, ceux qui étudient ces choses, qui ne sont pas croyants, parce qu'il y a aussi des croyants, hein, mais ceux qui ne sont pas croyants, ils regardent aujourd'hui et ils disent par exemple, le continent américain se sépare de l'Europe d'un centimètre par an. Tu vois, ils peuvent le calculer. Hein. Alors ils se disent, un centimètre par an, puisque c'était collé avant, il y a, 2000 kilomètres entre les deux, on recule et on recolle tout ensemble. Et en fait, on fait remonter la chose à loin. Mais vous savez, quand Dieu a divisé, il a pu aussi permettre un écartement beaucoup plus rapide et puis ralentir finalement. Et aujourd'hui, vous avez un centimètre par an. Et c'est ce que Dieu a fait. Et en fait, à cette période, Dieu a permis toutes sortes de choses qui ont séparé les peuples. Cette tectonique, mais aussi des montagnes, des déserts, des fleuves, des mers, toutes sortes des lacs. Tout ça a contribué à la séparation des peuples. Pourquoi faire ? Pour leur éviter de s'unir contre lui. Alors pour conclure, qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que l'homme est satisfait de ces barrières naturelles qui les séparent, de ces mers, de ces océans? Où va le monde? Est-ce qu'on est satisfait des langues qui nous séparent? En fait, on entend de plus en plus, « Oh, moi, je suis citoyen du monde. » Aujourd'hui, on dira, « Oh, moi, je suis européen. » Citoyen du monde, avec Internet, avec les moyens de transport, l'aviation, tous ces moyens modernes, les frontières qui disparaissent, l'anglais. On parle de plus en plus de la nécessité d'un nouvel ordre mondial. On appartient à la Terre. On est tous ensemble. Et on peut dire que l'humanité, en fait, elle se dirige de nouveau vers ce qui s'était passé à Babel. On veut de nouveau, tous unis, tous ensemble. Contre qui? Contre Dieu. L'Antéchrist sera l'homme du péché. Et Nimrod, vous savez, celui qui était roi de Babel, c'était une image finalement de l'Antéchrist qui viendra et qui voudra recréer cette unité contre Dieu et l'imposer. Et donc l'histoire va se répéter, mais Dieu ne va pas permettre. Il va intervenir, il va arrêter la folie de l'homme. Comment ? Par son retour glorieux. Il va revenir et dire stop, comme il l'a déjà fait. Alors Dieu laisse l'homme libre de ses choix, libre parfois de pécher par la désobéissance ou par l'orgueil, mais la liberté, elle a des limites. Dieu ne permet pas qu'on aille au-delà. Et même si l'homme a des projets, c'est toujours le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est lui qui dit, c'est ça, c'est moi qui ai décidé. C'est rassurant aussi, c'est rassurant. Dieu nous garde. Il n'y a pas un cantique qui dit qu'il nous garde de la folie de nos projets. On a ça dans ta bienveillance. C'est on pourra le chanter après. Dieu nous préserve de la folie de nos projets. Merci Seigneur. Et que ton dessein s'accomplisse dans nos vies. C'est ça qui est le meilleur, hein. On va avoir un